les podcasts de Radio Vatican.
Le 27 novembre 2017, le glyphosate était autorisé pour 5 ans de plus par la Commission européenne. Cet herbicide, commercialisé entre autres par la firme américaine Monsanto, est l'un des plus controversés. Ces molécules chimiques sont accusées d'avoir un impact sur la santé publique dans des pays où le modèle agricole est encore intensif et industriel, comme dans de nombreux États européens. C'est grâce au vote de 18 pays, dont l'Allemagne, qui jusqu'ici s'était abstenue, que la licence du glyphosate a pu être renouvelée. Une volte-face allemande qui a provoqué des critiques, de la France en particulier. Paris a demandé que l'utilisation du glyphosate soit toujours interdite au plus tard dans 3 ans et que des alternatives soient développées. Comment expliquer le revirement de l'Allemagne? Pourquoi l'Europe a-t-elle tant de mal à interdire des substances toxiques? D'éclairage de Christophe Noisette, il est le rédacteur en chef d'InfoGM, un magazine en ligne consacré à la veille citoyenne sur les OGM et les semences.
L'Allemagne est un pays déjà très industrialisé, mais c'est aussi un pays qui a une forte agriculture biologique. Donc déjà, c'est un premier questionnement. Pourquoi, dans ce cas-là, faut-il développer du Roundup? Mais on est en train d'assister à le mariage entre Monsanto, donc le propriétaire du Roundup, et Bayer, une entreprise allemande. Et ce mariage pourrait expliquer éventuellement ce revirement. C'est-à-dire qu'on sait que les lobbyistes de Bayer et de Monsanto font partie de quelque chose qui s'appelle le Glyphosate Task Force. Et cette coalition d'entreprises a dépensé des millions d'euros dans les couloirs de la Commission européenne et dans les couloirs du Parlement et aussi dans les couloirs du Bundestag et du gouvernement allemand. Donc il est fort probable que Bayer, en acquérant Monsanto, souhaite aussi pouvoir récupérer le Roundup. Donc on peut comprendre que les pressions se soient exercées de façon très forte, voire virulente, sur le ministre de l'Agriculture allemand pour que finalement il accepte d'autoriser pour 5 ans cette molécule.
Alors vous avez évoqué le Glyphosate Task Force, c'est-à-dire un vrai lobby justement, c'est quelque chose de très organisé, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Non, on ne peut pas trop en parler, puisque bien sûr il y a beaucoup d'opacité dans les lobbies au niveau de l'Union européenne. Mais on sait qu'il y a un registre qui a été mis en place par la Commission européenne qui s'appelle le registre de la transparence, et dans lequel les entreprises et les lobbies doivent déclarer leurs dépenses. Donc là, par exemple, ce glyphosate task force, on sait qu'ils ont dépensé des millions d'euros, mais il n'y a pas que. C'est vraiment des rouleaux compresseurs. Quand ils veulent quelque chose, ils mettent les moyens et sont capables d'engager des campagnes à tous les niveaux. Et on a aussi appris avec les Monsanto Papers, des centaines de documents que la justice américaine a obligé à révéler, que l'un des lobbies de Monsanto était auprès des scientifiques. Et donc Monsanto payait des scientifiques dits indépendants, qui n'avaient pas d'attache particulière avec l'entreprise, pour rédiger des papiers que l'entreprise lui soumettait. Des papiers qui, donc, bien sûr, innocentaient complètement cette molécule-là. Donc on est dans un jeu qui est assez compliqué, puisque la science ne semble plus être un moyen de déterminer si la molécule est saine ou pas. Et ça, c'est quand même gênant. Puisque si on ne peut plus faire confiance à la science, comment on va faire pour savoir s'il faut ou pas utiliser le glyphosate? Donc après, il y a bien sûr dans certains pays des éléments, on va dire, visuels, de terrain, des remontées de terrain qui prouvent qu'il y a des soucis sur le Roundup. Un exemple qui est très emblématique. Le Roundup fonctionne avec les plantes transgéniques. Il y a un lien viscéral entre les deux. L'Argentine a dédié sa surface agricole à la production du soja Roundup Ready. Et on sait, c'est un constat visuel, un constat de terrain que les épidémiologistes reconnaissent, que les villages autour des champs de Roundup, soja Roundup Ready, dans ces villages-là, le taux de malformation et de maladies congénitales a explosé.
La France a évoqué la possibilité de trouver des alternatives au glyphosate d'ici 3 ans, c'est ce qu'avait répété Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, il est raisonnable de dire qu'il y a des alternatives crédibles et quelles sont-elles?
Ça, c'est vraiment le mot qui fait un peu rire, hein. Alternative. On entend quelque chose de proche de l'écologie, on dit « Ah, ça, c'est une alternative ». Non, il est probable que leur alternative soit une autre molécule chimique. C'est jamais précisé. Ils auraient dû dire « On veut une alternative au modèle chimique ». Là, ça s'entend. Ça a un sens. Et on peut dire c'est l'agroécologie, l'agriculture biologique. Il n'y en a pas d'autre. La question, c'est est-ce qu'on veut sortir de l'agriculture chimique? Ça, c'est une vraie question et c'est possible. Il y a une étude qui vient d'être publiée dans Nature Communication qui raconte qu'on peut facilement, une transition qui est nécessaire, une transition un peu longue, on peut nourrir le monde à l'échéance 2050, 100% en bio. En prenant des contraintes assez fortes, hein, il dit qu'il ne faut pas augmenter non plus trop les surfaces agricoles utiles parce que ça, ce n'est pas possible. Il ne faut pas réduire le nombre de calories des habitants parce que voilà, on prend ça comme hypothèse et comme contrainte. Donc c'est une étude qui donne des contraintes maximales. Elle part aussi de l'idée que l'agriculture bio a des moins bons rendements pour ne pas être critiquable. Et ils disent c'est possible, mais ça implique un certain nombre de choix, et notamment de ne plus consacrer de terres agricoles cultivées, de ne plus consacrer de céréales ou de légumineuses à l'alimentation des animaux. donc d'avoir de la viande uniquement issue de prairies. Pour réussir cette transition, c'est une des obligations que les auteurs proposent. Voilà. Si on veut sortir de la chimie, il faudra aussi sortir d'une sorte de dépendance aux produits carnés. Pas que, mais aussi. Il faudra peut-être aussi sortir de la notion d'agrocarburant. Parce qu'actuellement, il y a des terres agricoles qui sont consacrées pour faire de l'éthanol et pour faire des biodiesels. L'agriculture sera recentrée sur la production pour les humains.
Oui, c'est tout un modèle à revoir, en effet. Alors, si je reviens un peu au glyphosate, est-ce que le poids de la société civile peut être une solution pour faire vraiment bouger les choses? J'ai vu qu'une initiative européenne citoyenne avait réuni près d'1,5 million de signatures. Alors, malgré l'autorisation de renouveler la licence du glyphosate, est-ce que c'est ce genre d'initiative qui peuvent faire bouger les choses, selon vous?
L'initiative citoyenne européenne qui a récolté 1,3 million de signatures, apparemment, n'a pas été suffisante pour arrêter le rouleau compresseur du glyphosate. Pourtant, je crois qu'il y a obligation pour la Commission européenne de prendre en compte cette initiative à partir du moment où il y a un certain nombre de pays qui sont représentés et plus d'un million de signatures. Je pense qu'il est toujours important de manifester son désaccord, sa colère. Après, par contre, dans quelle mesure les États membres écoutent leurs citoyens, dans quelle mesure les lobbies financiers ne sont pas plus importants. C'est la bataille qui se joue. Et ce n'est pas que sur le glyphosate, c'est une question qui est largement plus importante. Voilà. Est-ce qu'on va privilégier l'économie à très court terme, hein? C'est-à-dire que si on arrête le glyphosate, eh oui, il va y avoir des baisses de rendement, il va y avoir des entreprises qui vont faire des moins bons bilans financiers. Ou est-ce qu'on privilégie la santé et l'environnement à long terme? C'est une question. Oui, je pense que les citoyens doivent continuer à manifester ce qu'ils ont envie de dire. Les Monsanto Papers ont aussi été, je pense, une aide importante dans le débat, hein, puisque quand on a vu les collisions qu'il y avait entre la science et l'industrie, ça parle aux gens, et je pense que le rôle des journalistes est aussi un rôle très important dans ces batailles-là. Mais quand on voit certains traitements de l'actualité par certains médias, je ne citerai pas de nom, il y a quand même aussi des lobbies à l'œuvre auprès de ces journalistes.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.